Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations et nous donne des conseils pour une vie parfaite. Une vraie vie parfaite, c'est une vie où l'on reste soi-même dans un monde d'illusions. À l'ère du voisin gonflable, du gazon plus vert et de la plus grosse piscine, on peut avoir tendance à envier les autres, surtout lorsqu'ils nous exposent leur bonheur et leurs possessions sur leurs réseaux sociaux. Pourtant, sont-ils vraiment heureux? Notre première invitée pose la question. Elle en pose en fait deux questions centrales qui sont au cœur de son livre « La fausse vie parfaite ». Est-ce que la pression sociale guide vos décisions? Souhaitez-vous plaire à tout prix? Nous en discutons donc en première partie avec Jessica Fraser, une autrice de Rimouski. Cette réflexion tombe à point nommé pour moi qui me suis enfin décidée à vendre ma maison rendue trop grande avec un fiston maintenant en résidence au cégep. Déjà que j'avais quitté 10 ans une maison encore plus grande, voilà que je cherche un petit nid encore plus douillet. Avec les déménagements vient la nécessité d'épurer, de se déposséder, d'aller à l'essentiel, d'aller en fait à l'essence de soi. Un changement qui agit souvent comme un tournant. J'ai donc très hâte que Jessica nous partage son expérience à titre d'analyste et de gestionnaire de projets seniors. Parlant de seniors, nous en recevons un magnifique en deuxième partie. Un communicateur hors pair, homme de radio et de télé, un artiste peintre accompli, un porte-parole inspirant, un papa qui tente de léguer le courage en héritage à ses enfants, dont l'une est animatrice de radio, Penelope McQuaid. Je reçois donc en studio avec bonheur Winston McQuaid, qui a dû, comme sa fille, réagir à du harcèlement dans les réseaux sociaux. Dans son cas, c'était à cause de son âge, pouvez-vous imaginer, en tant qu'ambassadeur de Grey chez SCAF. Winston nous invite à changer notre regard, justement, sur les aînés, valorise les projets intergénérationnels et sensibilise les hommes à avoir le courage de parler de leurs émotions, particulièrement lorsqu'ils font face à la maladie. À titre de survivant d'un cancer de la prostate, Winston est devenu porte-parole de Procure, le seul organisme entièrement québécois dédié à ce cancer masculin. Winston a développé également une conférence appelée « Suis-je heureux? » dictée par l'importance de faire des choix qui nous ressemblent vraiment. Parce que, comme l'a dit Confucius, on a deux vies. La deuxième commence lorsqu'on réalise qu'on n'en a qu'une. Alors, je vous invite à écouter « Drôle de vie » d'Ima.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te faire des drôles de poèmes et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te faire des drôles de poèmes et viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Et si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te faire des drôles de poèmes et viens avec moi. Vamos locos! Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te faire des drôles de poèmes et viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Et si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te faire des drôles de poèmes et viens avec moi.
C'était Drôle de vie d'Ima. Parlons maintenant de la fausse vie. La fausse vie parfaite, c'est le titre du livre de Jessica Fraser aux éditions de Mortagne. Jessica Fraser est analyste senior et gestionnaire de projet chez TELUS et selon le communiqué de presse qui est joint au livre, Jessica aurait trouvé le bonheur en renonçant à entretenir l'illusion de bien paraître et d'avancer dans un chemin parfait. Son expérience en gestion de projet, en enseignement et en relations interpersonnelles l'ont amenée à pondre ce livre, ma foi, fort intéressant, qui regorge d'idées, de trucs et de conseils dont elle nous entretiendra. Bonjour, Jessica.
Bonjour.
Donc, je pense qu'il y a deux grandes questions qui sont au cœur de votre ouvrage. Est-ce que la pression sociale guide nos décisions et souhaitez-vous plaire à tout prix? Je suis curieuse d'abord d'entrée de jeu de voir, est-ce que c'est surtout la question des réseaux sociaux qui exacerbe cette pression sociale?
Je vous dirais que c'est entre autres. Moi, quand j'ai été inspirée d'écrire ce livre-là, ma grande source d'inspiration a vraiment été ma fille. Ma fille est née prématurément et elle a un diagnostic de dysphasie et dyspraxie sévère. Donc, elle va suivre un cheminement très particulier. Donc, depuis sa naissance, on a toujours été dans les rendez-vous, dans les choses plus compliquées. Et, autour de moi, je voyais des gens pour qui les enfants, c'était beaucoup plus simple, que aussi dans les réseaux sociaux, que tout paraissait parfait dans leur vie. Tandis que moi, je vivais des choses différentes. Et au travers de ça, il y a les réseaux sociaux, il y a tout autre sujet que justement j'aborde dans le livre. Mais c'est tout ça ensemble qui m'a inspirée à justement apprécier ce qu'on a, puis pas toujours chercher à paraître parfait, parce qu'on a tout un rythme différent pour évoluer puis faire les choses.
Il y a le cœur, dans le cœur de votre livre, on sent probablement votre pratique professionnelle, il y a toute la notion de changement aussi. J'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu là, des étapes là, pour bien vivre un changement?
Oui, bien, l'approche que j'amène, dans le fond, le changement est un des chapitres du livre. L'approche que j'amène, c'est que dans le changement, il y a des changements qu'on planifie, puis il y a des changements qu'on ne planifie pas. Et pour chacune de ces deux catégories, j'amène un peu des réflexions puis des trucs pour justement accepter le changement parce que ça fait partie de nos vies. Des fois, on se lève une journée et on veut vraiment que tout soit parfaitement comme organisé dans notre tête. Et souvent, ça ne se passe pas comme prévu. Et c'est comment aborder et vivre ces changements-là, ces soubresauts-là qui arrivent dans nos vies.
On dit souvent « tout change », même surtout le changement.
Exact.
Je sais que vous citez, entre autres, un ingénieur industriel qui est au cœur de la méthode Toyota et qui s'appelle le root cause, donc la cause à la source. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire, mais j'étais curieuse
de
vous entendre.
Cause fondamentale, oui.
Cause fondamentale.
Oui, en français, là.
Donc, on parle de quoi ici? Comment on va vers cette cause fondamentale?
Ben, dans le fond, souvent, puis je donne vraiment un exemple dans le livre par rapport à ça, c'est que souvent, quand il nous arrive quelque chose, on se sent fâché ou malheureux d'une situation qui vient d'arriver, une présentation au travail qui ne serait pas bien produite. Des fois, on blâme tout de suite que ça va pas bien, que c'est la présentation qui a été pas bien, puis que tout le monde n'a pas aimé, etc. Puis à la place d'arriver avec des constats comme ça qui sont souvent pas nécessairement bons, c'est d'aller se poser des questions un peu plus en profondeur. Fait que là, l'exemple que je viens de dire c'est complètement inventé à l'instant, mais quelqu'un qui...
Mais vous en avez un dans votre livre, quelqu'un oui. Qui n'aurait pas eu un emploi qu'il voulait et que ça l'amène à réfléchir à pourquoi il voulait avoir cet emploi-là.
Exact, exact. Puis, dans le fond, c'est de se demander pourquoi cet emploi-là, vous l'avez bien dans le fond. Pourquoi cette présentation-là ou cet emploi-là ne convient pas. Et c'est de poser la question 5 fois pourquoi. Fait que si vous répondez une réponse pourquoi, exemple, je suis fâchée de ma présentation, pourquoi je suis fâchée de ne pas avoir eu cet emploi-là, ben là, vous allez obtenir une réponse qui est propre à vous. Et avec cette réponse-là, vous vous redemandez encore pourquoi. Si la réponse, exemple, était « je suis déçue parce que je pense que j'ai pas mis assez les efforts à l'entrevue ou dans la présentation », l'autre question à se poser, c'est pourquoi vous n'avez pas mis ces efforts-là? Fait que là, peut-être que la réponse pourrait être, ben peut-être que ça m'intéressait pas tant que ça de la faire. Fait qu'à force de se faire des pourquoi à chaque réponse, on arrive à une cause fondamentale qui, des fois, nous fait du bien parce qu'on se rend compte que c'est pour ça. Fait que ça peut créer un sentiment de soulagement d'avoir vraiment compris qu'est-ce qui créait la frustration instantanée qu'on vit.
Donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu comme un oignon qu'on épluche? On va au cœur du problème. Donc, c'est vraiment, on se rapproche de la racine principale de ce qui nous dérange. C'est une manière un peu d'essayer de comprendre davantage nos émotions aussi?
Exact, oui, c'est une belle métaphore, je trouve. Là. C'est vraiment de se retrouver au cœur et oui, ça permet de comprendre. Surtout si c'est une émotion qu'on vit et qu'on se demande pourquoi, bien, ça nous aide beaucoup à la comprendre.
Donc, dans un contexte de changement, justement, le fait de comprendre ce qui nous dérange, ça peut peut-être nous aider à l'accepter davantage?
Exactement. Exactement. C'est un petit peu l'approche que j'amène dans ce chapitre-là.
Puis justement, pour compléter cette idée-là de changement, je suis curieuse de voir quel lien vous faites peut-être avec votre métier dans un processus de gestion de changement au travail. De quoi on peut s'inspirer dans notre vie personnelle?
C'est sûr que moi, dans le fond, je suis dans le domaine de la gestion de projet. En projet, on vit constamment du changement. On met toujours en place des nouvelles choses. Qui va changer les processus et procédures? Des personnes qui sont impactées par le projet. Donc, ce changement-là, c'est de trouver au fur et à mesure qu'on monte un projet ou qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, comment bien le communiquer, comment écouter, faire de l'écoute active aussi des gens, tu sais, vraiment comprendre ce qu'ils ont besoin et non penser à la réponse avant que la personne ait fini de parler, ce qu'on fait tous souvent.
Mauvaise habitude, oui.
Oui, puis l'écoute active, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Même si on veut en faire 5 minutes par jour, c'est déjà un bon défi. C'est assez difficile, parce que ça veut dire c'est vraiment écouter sans penser à notre réponse, sans penser à ce que nous, on prévoit mentionner ou prévoit faire suite à un commentaire de quelqu'un. C'est difficile.
Et donc, on peut s'inspirer de cette méthodologie-là que vous appliquez au travail dans une décision ou un changement personnel. C'est ce que j'entends?
Bien sûr, bien sûr. Moi, selon moi, ça peut être utilisé partout.
J'ai envie de vous entendre aussi, peut-être si on revient sur la notion là, du voisin gonflable, du gazon plus vert. À quel moment l'envie... qui pourrait être une source d'inspiration aussi. On pourrait dire, cette personne-là a eu telle réalisation. Puis une fois qu'on comprend la raison pour laquelle on veut ça, mettons qu'elle est légitime, à quel moment ça bascule dans une jalousie que ça devient malsain? À quel moment ça passe de quelque chose qui est motivant à quelque chose qui est malsain?
Bien, selon moi, ça dépend vraiment de la perception de la personne par rapport à ça. Exemple, un cousin a une belle maison, a vraiment quelque chose, une belle piscine en arrière, puis vous le trouvez chanceux d'avoir ça, puis vous informer, puis vous regarder comment il a fait pour avoir ça. Est-ce qu'il a pu trouver des avenues pour sauver des coûts? Y a-t-il des choses que vous pourriez avoir, peut-être la piscine, même si vous, par exemple, gagnez moins cher que lui, puis vous essayez de trouver des astuces, vous le trouvez chanceux, mais vous avez un aspect, une vue positive de la situation. Ça, c'est bien. Sauf que si vous êtes dans cette même situation-là, puis que vous devenez jaloux, puis vous mentionnez des commentaires désobligeants envers votre cousin, exemple en disant, ben oui, on sait bien, il y a tout dans
lui. On sait bien.
Puis, tu sais, ces commentaires-là que là, on devient, en fait, c'est pas gentil pour le cousin, mais c'est aussi pas gentil pour soi parce qu'on se fait du mal là-dedans. C'est une attitude qui devient comme négative, là.
Absolument. Puis ça demeure quand même pas effectivement une bonne énergie. Puis il y a aussi toute une question de bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent vraiment des difficultés majeures, mais il reste que pour beaucoup d'entre nous aussi, il y a une notion de choix. Là où on décide de mettre nos énergies, là où on décide de mettre du temps. J'ai une amie, par exemple, qui voyage énormément, mais qui le fait sac à dos, mais qui n'a pas de câble, qui a une tout petite télévision, qui s'habille uniquement dans les friperies. Donc, elle me dit souvent, on me dit que je suis chanceuse, mais je fais des choix particuliers qui fait que moi, je pourrais dire que l'autre est chanceux.
Exactement. Puis ces choix, elle est faite pour elle et non pour les autres. Puis elle a choisi que sa priorité, c'était voyager et non avoir la télé et une grosse maison. C'est bien parce que justement, elle ne cherche pas à créer une illusion ou à être différente de ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Puis elle est bien là-dedans. C'est un peu aussi ce que j'amène dans le livre, là.
Absolument. Jessica, je vous propose qu'on écoute une chanson de Sacha Distel, La belle vie, tant qu'à être sur le sujet. Et après la pièce musicale, j'aimerais vous entendre parler un petit peu de la notion, de la différence entre pouvoir, autorité, leadership. Il y a encore plein de sujets là, que j'ai envie d'aborder avec vous, de se défaire aussi de l'emprise des mots, le rôle familial. Bref, on s'en va en musique, on se reparle tout de suite après.
Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste. Et on traîne. Alors pense que je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là.
La belle vie de Sacha Distel. Que c'est joli, c'est berçant. Nous sommes de retour avec Jessica Fraser pour le livre « La fausse vie parfaite, comment rester soi-même dans un monde d'illusions » aux éditions de Mortagne. Alors, Jessica, je vous disais avant la pièce musicale que vous emmenez la notion qu'il y a une différence entre pouvoir, autorité et leadership.
Oui, c'est exact. Puis, si on met l'accent aussi, c'est que puis ça, j'amène à ce sujet-là justement pour l'autre point que tu mentionnais par rapport à l'art des mots.
Oui, se défaire de l'emprise des mots, oui.
Exact. Puis ça, c'est il y a beaucoup d'images justement qui font des parallèles entre le pouvoir autorité versus le leadership. C'est sûr que de l'autorité, puis ce que je mentionne, c'est que c'est nécessaire dans la vie pour respecter des règles de société. Mais quand, exemple, quelqu'un arriverait avec un pouvoir, si on pense par exemple à Hitler ou toutes les...
dans les gros noms, là.
oui, c'est ça, toutes les horreurs qui aient pu arriver, ben le pouvoir, s'il est pris d'une façon malsaine comme ça, est néfaste pour la société. Tandis que le leadership, ben, quelqu'un qui est un leader, va faire grandir les personnes en leur mentionnant des choses, mais les gens vont y adhérer par eux-mêmes, vont vouloir suivre la personne, tandis qu'un pouvoir, c'est qu'ils sont obligés de le faire. Fait qu'il y a cette distinction-là. C'est sûr que quand c'est possible d'aller vers le leadership, c'est toujours une bonne approche. Et aussi, ben, via le pouvoir, ben, des fois, il y en a qui utilisent l'emprise des mots pour obtenir ce qu'ils veulent des autres. Puis ça tourne un petit peu dans la manipulation et l'art des mots. Fait que c'est pour ça que je parlais de ce sujet-là par rapport à... Il y a peut-être des personnes qui vont agir dans leur vie selon des mots de d'autres, alors que ce n'est pas dans leur valeur. Fait que c'est vers ça que j'amenais pour que justement ne pas se laisser entorlouper un peu par les mots qui vous empêchent d'être heureux et de suivre vos propres valeurs.
Vous parlez également, parce que c'est vraiment un bouquet d'idées assez touffues, votre livre, là, vous couvrez assez large plusieurs sujets, de la notion du rôle familial qui des fois fait en sorte justement que ça nous amène peut-être à ne pas être conscient des décisions qu'on prend. Le fait, même parfois, vous évoquez la notion des fois d'avoir honte du milieu familial dans lequel on vient.
Oui. Dans le fond, c'est des fois, tu sais, toute la famille, qu'est-ce qu'on devient, ne veut pas. On a quand même eu la culture et les valeurs prodiguées par notre famille. Puis certaines personnes pourraient ne pas adhérer à certaines valeurs, cultures que leur famille a et pourraient avoir honte. Et l'approche que j'amène là-dessus, c'est que si vous en êtes là, peut-être que vous pouvez trouver une façon positive de considérer votre famille. Je ne sais pas, par exemple, si votre père ou votre mère aurait des problèmes de consommation, qu'est-ce que ça a pu vous amener comme positif dans la vie? Peut-être que ça vous a amené à faire attention à ne pas avoir de problème de consommation. Peut-être que ça vous a appris à aider, à être plus autonome. C'est quoi le positif que vous pouvez aller chercher malgré peut-être quelque chose que vous avez honte de votre famille?
Et donc, c'est vraiment de regarder avec d'autres types de lunettes les expériences qu'on a vécues. Et sur cette veine-là, vous parlez notamment d'amour déficient et d'amour de l'être. Donc, est-ce que c'est aussi une question de regard différent sur l'amour?
Oui, mais c'est aussi ça par rapport à l'amour, c'est de se faire confiance. C'est que si vous avez comme un amour plus déficient, c'est que vous allez peut-être chercher à être avec quelqu'un, peu importe qu'est-ce qui se passe, tandis qu'un amour qui est plus épanoui, ben vous allez chercher à être quelqu'un, mais vous n'avez pas besoin de cette personne-là. Vous allez vraiment chercher à être avec une personne qui vous complète et qui vous rend vraiment heureux. C'est un peu dans ce sens-là.
Vous abordez aussi la notion d'angle mort. Donc, pouvez-vous nous expliquer, là, évidemment, on le sait tous au volant de notre voiture, mais dans notre vie personnelle, c'est... des fois, il faut se tourner la tête pour voir un coin de nous là, qu'on comprend moins bien.
Exactement. C'est exactement ça. Parfois, on en regarde en avant, on en regarde en arrière, mais on n'en regarde pas sur le côté, on ne se tourne pas la tête pour voir qu'est-ce qui se passe réellement dans une situation. Si vous pourriez être avec une situation avec des amis et finalement vous êtes fâché et vous répondez quelque chose bêtement à un ami et vous comprenez pas pourquoi votre ami après vous répond bêtement parce que vous avez peut-être pas vu la façon que vous l'avez, tu sais, que vous y avez parlé la première fois. Fait que c'est là de se regarder sur un autre angle pour mieux se comprendre et prendre le temps de le faire.
Ben, en fait, aussi, cet angle mort-là, j'ai tendance à penser que quand on entend une perception de quelqu'un sur notre personnalité, sur nos comportements, parfois, ça peut être aussi une perception de sa part, Mais si ce commentaire-là revient régulièrement de différentes personnes, mm-hmm. on a peut-être intérêt à regarder ce qui se passe.
Exactement, exactement. C'est un cas isolé, c'est une situation isolée. C'est peut-être pas quelque chose qui fait partie de vous, mais un comportement qui est arrivé. Mais si ça fait quelques fois que vous recevez le commentaire, peut-être que c'est le bon temps de le regarder, cet angle mort-là.
Donc, on peut à ce moment-là utiliser notre oignon puis essayer d'aller à la cause fondamentale. Puis...
Oui, c'est un bon lien.
j'ai envie de peut-être en terminant, évidemment, on est une émission qui parle de vieillir sereinement et des succès en vieillissant. Vous citez un exemple d'entreprise qui n'est peut-être pas un exemple de santé, le Colonel Sanders. Mais justement, qui a connu le succès très tard, peut-être nous raconter mm-hmm. l'anecdote en terminant?
Bien, dans le fond, c'est une personne, puis tu sais, j'ai pas tout le détail mm-hmm. historique de cette personne-là, mais lui a fait...
Poulet fricain toqué, là, pour les auditeurs.
Exactement, exactement. Et cette personne-là, ça a pris vraiment du temps avant qu'il réussisse à vendre sa recette de poulet frit. Et il a fait beaucoup, beaucoup de ventes. Il a essayé avec plusieurs personnes pour y arriver. Et avant ça, il y a eu d'autres entreprises. De mémoire, il est tombé en faillite. Sa vie n'a pas été facile. Puis c'est beaucoup plus tard, à plus de 60 ans, qu'il a réussi à être un succès. Finalement, son entreprise, il est extrêmement riche. Là. C'est génial. C'est une belle histoire. Puis justement... Dans mon livre, pour moi, il n'y a pas d'âge. Là. Tout le monde peut réussir, peu importe où est-ce qu'on est dans la vie. Là.
Peut-être un dernier conseil, Jessica, en terminant, tirer de votre livre.
Vous voulez un conseil de tirer de mon livre?
Ben, peut-être comment vous l'avez mis en pratique.
Vite comme ça. Écoute, c'est parce qu'il y a tellement de conseils dans mon livre.
Oui, hein? C'est...
je vais y aller vers quelque chose à la fin. Qui est les points de départ. Dans le fond, on a plusieurs choses dans nos vies. On a le travail, on a notre famille, on a nos amis, nos passe-temps. Et des fois, par exemple, si quelqu'un passe trop de temps au travail, il néglige sa famille, ses amis, peut-être que ça ne le rendra pas heureux.
Donc, peut-être de justement regarder dans notre pointe de tarte à ce que ça soit plus équilibré, des pointes égales. Merci
Exactement.
Beaucoup. Merci beaucoup, Jessica Fraser, pour votre livre « La fausse vie parfaite » aux éditions de Mortagne.
Bonne journée à vous.
Bonne journée, au revoir.
Bye.
Tout de suite après la pause, on reçoit Winston McQuaid.
Ici Jeannette Bertrand. Vous écoutez l'émission Au fil du temps avec Chantal Doré.
Oui, cette chère Jeannette Bertrand que nous avons reçue le 16 décembre dernier, que vous pouvez retrouver sur canalm.vuesetvoix.com, également sur les plateformes de balado-diffusion comme Spotify, Apple Balado et Google Playcast. Je vous invite à recevoir maintenant... un homme absolument fascinant, un homme de télé, un homme de radio, un artiste peintre inspiré. Et il était très ami avec un grand homme de jazz, Vic Vogel. Et je vous invite à écouter cette pièce musicale de Vic Vogel, qui est en fait chantée par Joanne Blouin. Une très belle pièce que vous allez reconnaître. Et on reçoit tout de suite après Winston McQuaid qui porte un regard sur l'âgisme.
Smile though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. For you, light up. days of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time. Still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on. Still worthwhile if you just smile. Ever a tear that was ever so near, that's the time you must keep on smiling.
C'était Smile, une pièce de Charlie Chaplin, chantée par Joanne Blouin avec Vic Vogel, grand artiste de jazz et ami de mon invité Winston McQuaid. Ah, oui. Bonjour Winston.
Salut Chantal.
Je vous le présente pour ceux qui ne le connaissent pas et probablement les peut-être plus jeunes d'entre eux.
C'est une question de génération.
Hein? Oui, c'est ouais. Ça, c'est de ça qu'on parle ici. Ah. Donc pendant 30 ans, Winston McQuaid, ça a été l'une des figures de proue de Radio-Canada. Puis il a quitté la Grande Tour pour renouer avec la peinture qu'il avait étudiée à l'École des beaux-arts. Il a d'ailleurs créé une toile en l'honneur de Vic Vogel qu'on entendait tout juste auparavant, grand artiste de jazz décédé d'un cancer de la prostate alors que Winston, il en est un survivant. Winston l'a embrassé la cause en devenant porte-parole de Procure, le seul organisme québécois entièrement dédié à la lutte au cancer masculin le plus répandu. Winston demeure donc une personnalité publique, et ce, malgré son âge avancé. Et là, je vous entends sourciller, cher auditeur, mais c'est Wikipédia qui a osé écrire cela. Et je voulais le citer parce que c'est justement d'âgisme dont nous allons parler avec Winston. Alors, il y a eu vraiment une histoire que tu as vécue dans ton rôle d'ambassadeur de Grey chez SCAF.
Écoute, j'ai été depuis entre 2014 et 2020 le porte-parole, l'ambassadeur, si on veut, du lunetier Grey chez SCAF. Et après la troisième année, lors de la troisième campagne d'automne, il y avait une inquiétude. Et il ne savait pas trop comment m'approcher, c'est-à-dire les gens chez Grey chez SCAF, et aussi le producteur, celui-là. La personne qui est responsable de la production des commerciaux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a reçu des commentaires négatifs, défavorables, à l'effet que Winston McQuaid, le porte-parole, était peut-être trop vieux pour porter la cause. Puis il y en a qui n'étaient pas du tout gentils. Là, on parlait de face de ci, puis de...
C'était
vraiment...
Donc, une trentaine de gens qui déploraient que tu étais trop vieux pour faire des annonces de lunettes.
C'est ça,
exactement. À un moment où on en a tous besoin.
Alors que moi, c'est quelque chose... j'avais jamais vraiment pensé à ça. Mon âge était quelque chose qui ne m'a vraiment jamais dérangé. Là. J'ai pas fait de focus là-dessus, ni positif, ni négatif. La vie continuait son cours. Mais là, tout à coup, ça... C'est un peu comme une claque derrière la tête. en disant « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Le vieux, tasse-toi mon oncle, on va en mettre un plus jeune, puis ça va vendre bien plus de lunettes.
Mm. »
Non, c'est pas, t'sais, bon. Alors là, il y avait comme un problème à résoudre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un problème d'ordre éthique. C'est un problème en même temps de philosophie, de compagnie. Quel message est-ce qu'on veut passer? Est-ce qu'on accepte ça en tant que compagnie responsable, responsable à la fois socialement?
Absolument.
Et on en est arrivé à la conclusion qu'on prendrait la balle au bon et qu'on profitait de l'occasion pour rapprocher les générations. Donc, ma petite fille, qui à l'époque avait 19 ans, Tess McQuaid, pour pas la nommer, qui arrivait du Costa Rica parce qu'elle a grandi là-bas, et arrivait comme ça, par hasard, était disponible, habitait chez moi, parce qu'elle avait été acceptée au Conservatoire d'art dramatique et de musique du Québec à Montréal, en opéra. Elle a une voix absolue. Formidable. Et puis, on l'a assis avec nous, puis on a dit, est-ce que ça te tendrait qu'on embarque dans cette orientation-là, qu'on aille vers ça? Alors, tout le monde s'est comme mis d'accord. On ne va pas plier à ces commentaires-là, comprendre cette forme d'intimidation-là. Donc, j'ai créé une page, Winston McQuaid intergénérationnel. Et là, bon, on en a profité pendant un bon bout de temps, en tout cas, pour sensibiliser les gens à cette platitude-là qui est celle de dénigrer des gens qui avancent son âge, qui est 55 ou 65 ou 75, tu sais, bon. Et je pense que depuis, il y a eu un bon bout de chemin de fait. Particulièrement dans le cas de la pandémie, on s'est rendu compte que, oui, il y a peut-être des gens dont on aurait... pu mieux s'occuper.
Ça a été un grand révélateur, oui.
Voilà, et on aurait peut-être pu aussi prendre la balle au bon et faire quelque chose de positif, et c'est ce qui est en train de se faire. C'est les mêmes questions maintenant, il y a les maisons qui sont conçues en fonction de ça. On parle de plus en plus de maisons intergénérationnelles. Oui. Quand c'est arrivé, on en avait parlé brièvement, mais on retrouvait ça surtout dans les pays nordiques européens. Mais là, maintenant, le concept, l'idée fait son chemin et on est de plus en plus, sur le plan gouvernemental, de plus en plus d'accord pour à la fois donner la parole aux gens d'une certaine expérience, d'un certain âge, et moi je vois ça comme étant très positif pour l'avenir.
Ben, c'était un peu à cette époque, là, on parle de 2016, quand tout ça est sorti dans le journal Le Montréal, une certaine croisade que tu avais fait pour amener une réflexion autant sur l'infantilisation que le manque de sens politique.
Exactement, parce que il m'est arrivé d'aller à l'hôpital à l'urgence à un moment donné, puis on m'avait répondu, mon petit monsieur, on n'a pas le temps de s'occuper de vous
autres. Mon petit monsieur!
Ça sera pas long, mon petit monsieur, on va... Bon. Et puis, c'est ça qu'on entendait aussi, ma petite madame, mon petit monsieur, etc. On les infantilisait beaucoup, beaucoup. Et ça, il y en a de moins en moins. Et il y a de plus en plus de gens de ma génération, j'ai 60, j'aurai 78 le mois prochain. On entend, tu sais, bon, il y a eu un revirement que moi je trouve intéressant, c'est positif. Et je pense que pour l'avenir, les choses iront sans doute un peu mieux que les gens... Mes parents puis mes grands-parents, là, ce qu'ils ont eu à subir.
Le mois prochain, c'est le 16 août peut-être?
Le 16 août exactement, ouais, vous êtes bien informé.
Mais c'est parce que c'est le jour de l'anniversaire de mon fils qui aura 18 ans.
Aïe, aïe, aïe. Belle coïncidence.
Ben oui, tout à fait.
18 ans, c'est wow, c'est le début, c'est le début. C'est le début de tout, là.
Comment on vit ça, un rôle de grand-père, Winston?
Vous pourriez me demander comment on vit un rôle d'arrière-grand-père aussi.
Ah oui!
J'en ai deux qui sont des arrière-petits-fils, là, dont un, il y a 3 semaines à peine, Nicolas, qui est venu au monde au Costa Rica. Et moi, j'ai des enfants éparpillés un peu partout. Toronto, Montréal, Saint-André, Davelin, Italie, tu sais, il y en a... Bon. Et depuis le début de la pandémie, on se parle en Zoom.
Ouais.
On se fait des FaceTime, on se voit autrement, on se voit à l'écran, mais c'est pas pareil, c'est clair. Puis là, bon, on commence à voir un peu de lumière au bout du tunnel et on commence, d'ailleurs, j'entendais un reportage hier aux nouvelles, On a fait un sondage en France, à Paris plus particulièrement, et on se demandait comment, si on recommencerait, quand recommencerait-on à se faire la bise.
Oui.
Et il y a bien des gens qui n'ont pas l'intention de se faire la bise avant un bon moment, et c'est plus des coudées qu'on se donne, puis tu sais, quand on se met les deux poings ensemble.
Des fist bumps.
Et puis, voilà.
Mais ça, c'est intéressant parce que justement, la technologie nous amène à garder des liens avec les gens qu'on aime malgré la distance. Ça, c'est, je pense, une belle révolution des nouvelles générations.
Et moi, je suis quand même relativement surpris de constater à quel point les gens de ma génération sont devenus très habiles avec tout équipement, tout l'équipement électronique qui est autour de nous, tu sais. Ça a des ordinateurs, évidemment, mais tu sais, le téléphone, les tablettes, les ordinateurs portables, tu sais, c'est une transition importante, tu sais, qui a lieu depuis plusieurs années maintenant, puis c'est devenu ça. Et je pense qu'on n'a pas à avoir peur. Tu sais, aujourd'hui, je regardais des bios, des CV que j'avais déjà écrits, puis là, je faisais une recherche à la maison pour autre chose, puis tout à coup, je tombe là-dessus, puis je regardais un peu l'évolution de ce qui s'est passé depuis peut-être les 15-20 dernières années, et c'est quand même incroyable, tu sais. On est passé du fax, comme on passait de la cassette au CD, de la CD, tu sais, enfin, on a vécu une sacrée évolution.
Toute une révolution numérique.
Exact,
assez phénoménale. Et j'ai envie de dire que tu utilises toi-même très bien les réseaux sociaux. Mm-hmm. Tu fais des vidéos et entre autres, tu en as fait une qui a été publiée sur la page Facebook de Procure, dont tu es le porte-parole. Mm-hmm. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que tu interpelles les hommes sur cette peur-là de parler de leurs émotions.
Ça a tellement été tabou longtemps, la sexualité, et aussi tout ce qui s'appelle les maladies autour d'eux.
Mm-hmm.
Tu sais, on a commencé à parler des MTS il y a quelques années, puis encore là, on n'en parlait pas fort, on chuchotait presque. Il y a eu l'avènement du sida, tu sais, là encore, c'est tabou. Tu sais. Alors, tous les sujets qui sont liés à la sexualité ont toujours été un peu tabous, et les maladies qui se rapprochent de ça, entre autres, les cancers de la prostate, qui est sans doute le cancer qui touche davantage les hommes, et quand même beaucoup, là, 4300, je veux dire, c'est beaucoup. Là.
4300 par année qui reçoivent
exactement
un diagnostic.
Tu sais, 8 hommes, je veux dire, les chiffres sont bons. Mais là aussi, il y a eu une certaine évolution intéressante. Tu sais, il y a la robotique qui est arrivée depuis quelques années, et maintenant, on fait des interventions par rapport au cancer de la prostate, ou des interventions où les gens, finalement, ne sont plus considérés comme des clients, mais bien des partenaires dans une espèce d'aventure médicale. On en parle avec son urologue, avec son onco-urologue, et ce dont on ne parlait pas, parce qu'on c'était tabou il y a quelques années, maintenant, c'est sur le bureau. Tu sais, je veux dire, on en parle ouvertement. On parle de dysfonction érectile et comment résoudre certains problèmes de dysfonction érectile qui ne sont pas nécessairement reliés à la prostate, mais qui sont reliés aussi au phénomène du vieillissement, au phénomène de la transformation du corps de l'homme et de la femme, pour toutes sortes de raisons, qui sont identifiables, les hormones et tout, on en arrive à mieux comprendre les choses et à moins être choqué par la définition des termes. Tu sais, on peut dire maintenant ouvertement pénis, pénienne, clitoris, vulve. Tu sais, je veux dire, c'est dans le langage maintenant, alors qu'il y a 25-30 ans, même 50 ans, c'était impensable. Tu prononçais le mot, puis c'était un péché mortel, tu sais.
Ouais.
Alors, il y a une évolution, là.
Absolument. On a reçu Jeannette Bertrand avant les fêtes
Ben oui.
Et elle allait contribuer justement à démystifier tous ces thèmes-là. Winston, on va faire une petite pause musicale et on va poursuivre ensuite.
C'est vrai qu'on jase beaucoup.
Parce qu'on a une surprise. On a une surprise pour toi. On a retrouvé une chanson que probablement ça fait très, très longtemps que tu n'as pas entendue.
OK.
Là, je te regarde et tu te demandes c'est quoi.
J'ai une certaine idée de ce que vous allez me faire entendre.
Alors, je ne dirais pas Manon Persulpiton, mais Maurice.
maison, chanter mes chansons, les oiseaux seront tes amis. Tu me dis ton nom, je te dis mon nom, on se fera des tas d'amis.
Viens dans ma maison,
chanter mes chansons,
les oiseaux seront tes amis.
Tu me dis ton nom,
tu me dis ton nom,
je te dis mon nom,
on se fera des tas d'amis. Le soleil est chaud, les arbres sont beaux, j'effeuillerai la marguerite. Viens près du ruisseau, mouiller ton visage, tu as l'amour et moi le temps.
Viens dans ma maison, chanter mes chansons,
les oiseaux seront tes amis. Ton
je
nom,
te dis mon nom,
on se fera des tas d'amis. Les enfants s'amusent à parler aux fleurs, viens assieds-toi et fais comme eux. Ils disent bonjour au clair de la lune, papa reviendra vous chercher.
Viens dans ma maison, chanter mes chansons,
les oiseaux seront tes amis.
Tu me dis ton nom,
tu me dis ton
je
nom,
te dis mon nom,
on se fera des tas d'amis.
Viens dans ma maison,
chanter mes chansons, les oiseaux seront tes amis. Tu me dis ton nom, je te dis mon nom, on se fera des tas de
bien dans ma maison.
Viens dans ma maison, viens dans ma maison, viens dans ma maison, viens.
Nous sommes avec Winston McQuaid et on l'a replongé dans des souvenirs. On va lui laisser nous expliquer qu'est-ce que cette jolie chanson.
Ça me touche profondément. Ça faisait un bon moment que je l'avais entendu. C'est Penelope qui a accepté de faire un studio avec Guy Trépanier, qui était recherchiste à l'émission L'Heure de Pointe et qui est aussi auteur, compositeur, interprète, qu'on n'entend plus malheureusement. Qui avait produit ce disque-là. On fait un trip de chum.
Oui.
On avait décidé, et ça a très bien marché. C'était une chanson qu'on avait juste avant l'été. Donc, pendant tout cet été-là, Penelope n'était pas vieille. Maintenant, quand je pense à elle à la radio, qui a maintenant, elle a presque 30 ans de métier maintenant.
Oui.
Et
là, elle avait quoi, 8-9 ans? Hein,
c'est ça.
Ça fait quoi d'entendre sa fille comme ça en tant qu'enfant? Comment ça nous remet dans ce temps-là?
Je trouve que ça n'a pas vieilli. Tu sais, il y a des choses qui vieillissent moins bien que d'autres, mais ça, je trouve qu'il y a quand même là-dedans une fraîcheur qu'on retrouve encore chez Penelope, une spontanéité qu'on retrouve chez elle et surtout le désir de bien faire les choses.
Oui.
Tu sais, elle est... très particulière dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui, sur le plan du métier, en plus d'être doué pour faire ce métier-là, c'est quelqu'un qui travaille très fort. Elle fait sa recherche, en plus de la recherche qu'on fait pour elle, comprends-tu, pour l'accompagner. J'ai beaucoup d'admiration pour elle parce qu'elle est, d'une certaine façon, en ce qui me concerne, l'image de la transition qui s'est opérer et qui s'opère encore entre les différentes générations. Moi, quand j'étais plus jeune, annonceur, animateur, à Radio-Canada, les choses se faisaient d'une certaine façon. On avait moins de liberté parce c'était cadré, très, très bien encadré. Et maintenant, les choses ont évolué. Et ça, je trouve ça le fun. Et je trouve que Pénélope tient très bien son rôle dans ce sens-là. Elle n'est pas la seule à faire ce métier-là. Mm-hmm. Il y en a plein d'autres qui ont beaucoup de talent aussi. Mais je trouve ça intéressant de regarder ça, de prendre un pas en arrière. Et tiens, on entend la chaise. Je prends un pas en arrière et je regarde comment les choses ont évolué. Et ça me plaît bien.
Et vous aurez, au moment où nos auditeurs écouteront l'émission, vous aurez marché avec Pénélope. Oui. Pour la marche du courage Jean Pagé, mm-hmm. donc en l'honneur d'un grand collègue aussi de Radio-Canada. Et en fait, je voulais vous parler un petit peu de votre rôle mm-hmm. de porte-parole. J'imagine que vous êtes un survivant vous-même du cancer de la prostate.
Pour faire une longue histoire courte, plusieurs années d'avoir fait l'examen annuel et la prise de sang qu'on appelle l'APS, l'antigène prostatique, pour, à un moment donné, inquiéter mon médecin de famille. Et on a poussé les examens un peu plus loin. On a fait des prélèvements pour se rendre compte que, à la deuxième fois qu'on a fait un prélèvement, qu'il y avait du cancer là-dedans. Mm. Alors, j'avais une option soit de continuer comme ça tranquillement et de suivre l'évolution. Mais compte tenu de mon âge, c'est arrivé, j'avais 59 ans, et de la condition physique dans laquelle j'étais, on a décidé, l'uro-oncologue, mm-hmm. l'uro-oncologue et moi, le docteur Josh Taguchi, de procéder à une prostatectomie radicale, c'est-à-dire enlever au complet la glande de la prostate. Et tout a bien fonctionné. Évidemment, il y a les mêmes peurs qui sont là. Mm-hmm. C'est un cancer, tu sais, on a toujours... Mais c'est quand même le cancer qui évolue le plus lentement. On peut mourir de bien des choses avant de mourir du cancer de la prostate. Mais en même temps, c'est revenu 2 ans plus tard. Il y a eu une récidive en 2005. Et là, j'ai fait un mois de radiothérapie. Et depuis ce temps-là, à tous les ans, je vois mon oncologue, mon urologue. Et les choses sont au beau fixe. Alors, je suis un survivant depuis 2005.
Alors que votre ami Vic Vogel en parlait...
Oui.
Lui a perdu son combat.
Lui a perdu son combat. Jean Pagé a perdu son combat également. Ça arrive. On ne va pas se faire des cachettes là-dessus. Mais comme je disais, il faut être attentif et suivre ça de façon minutieuse, méticuleusement, suivre son cancer. Et Vic, c'est arrivé... on savait que ça se produirait. Ça faisait quelques mois, quelques semaines, de jour en jour... Et je parlais, son gérant est un de mes grands amis, mm-hmm. puis c'était plus un ami, c'était un membre de la famille d'une certaine façon. Et un matin, Bob Bover m'appelle à la maison, je suis en train de peindre. Et là, il me dit, Vic a trépassé mm-hmm. cette nuit. Alors, j'ai fait une toile, mm-hmm. une toile dans les couleurs de Vic que j'appelle mon ami Vic. Dans le bleu, et c'est cette toile qu'on va retrouver sur les emballages de du prochain événement de procure, c'est-à-dire l'affaire Papillon, qui arrive au mois de
novembre.
C'est ça.
L'affaire Papillon et ensuite
septembre,
novembre.
Octobre, novembre, on est dans ces mois-là.
Donc, septembre, c'est le mois de sensibilisation cancer de la prostate. Là, il y a l'événement l'affaire mm-hmm. Papillon. Et novembre, je crois, c'est la signature de procure avec le nœud papillon.
Exactement. Bovember en anglais, c'est
bon. Bovember, oui. Donc, cette boîte-là, c'est, mm-hmm. c'est votre œuvre qui enrobe. Et j'ai lu aussi que vous donnez vous avez préparé une conférence, vous donnez une conférence qui s'appelle « Suis-je heureux ».
Oui, excuse-moi. J'ai donné quelques conférences autour de cette thématique-là. Et je trouve ça important de le faire parce que généralement, c'est dans le cadre de réunions de personnes qui sont un peu plus âgées, qui sont près de la retraite. Et au moment d'arriver à la retraite, on se pose souvent la question, est-ce que j'ai réussi ma vie? Est-ce que j'ai réussi professionnellement? Est-ce que j'ai réussi sur le plan personnel, sur le plan familial, on se remet beaucoup en question à partir d'un certain moment pour et ultimement, on veut répondre à la question, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai bien fait mon travail? Est-ce que j'ai touché à tous les points sensibles de mon évolution, que ce soit individuellement ou avec les gens qui m'entourent, avec ma famille et tout ça? Et je donne quelques pistes, quelques clés pour faire des vérifications qui peuvent s'avérer comme étant à la fois positives et nous permettre de voir le plus loin possible en avant.
Donc, suivre ses passions, cultiver des belles relations, créer toujours et communiquer ce que vous faites toujours admirablement, n'en déplaise à Wikipédia. Un gros merci, Winston McQuaid.
Chantal, c'est moi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bon après-midi.
À bientôt.